cité de Bunagana dans la province du Nord Kivu depuis ce lundi matin sous contrôle du groupe armé de M23, désormais qualifié de mouvement terroriste par le gouvernement congolais. Le M23 a pris le contrôle de Bunagana sans combat après le retrait des militaires congolais selon les informations reçues. Aux dernières nouvelles, Bunagana et les villages voisins restent considérablement vidés de leur population. Quelle lecture faire de cette situation? C'est la question au débat ce soir et pour en parler, nous accueillons Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Jacques Joly, bonsoir. À côté de Jacques Joly, on aura Jean-Claude Mbabazé. Bonsoir.
Oui, bonsoir Monsieur Guy Maté, bonsoir aux auditeurs de la radio Capi et bonsoir à tous les co-débatteurs.
Dona Madimba, ce soir, Jean-Claude Mbabazé, vous êtes président de la société civile du territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Et enfin, Jean-Jacques Wondo, analyste politique, breveté des études, de hautes études de sécurité et défense. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont celui intitulé « Sociologie politique militaire africaine ». Jean-Jacques Wondo, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir aux deux intervenants à cette émission.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Vous l'avez appris depuis de nombreuses heures maintenant, Bunagana est désormais contrôlé par le groupe armé M23. Que s'est-il passé et quelle est la situation ce soir dans cet entretien, les réponses dans cet entretien entre Guy Maté et Bernardin Nyangi?
Bernardin Nyangi, bonsoir.
Bonsoir Guy Maté.
Quelle est la situation actuellement dans la cité de Bunagana?
Oui, Guy Maté, la cité de Bunagana, comme vous le savez déjà, est occupée par le mouvement du 23 mars M23, c'est depuis ce lundi matin. Les éléments de cette rébellion qualifiée de mouvement terroriste par le gouvernement congolais occupent cette cité après le retrait sans combat, il faut le préciser, des militaires FARDC. Et cette cité donc, et ce village voisin d'ailleurs, il faut le préciser, reste vide de leur population.
Et comment en est-on arrivé là?
Toutes les précisions ne sont pas encore données par les sources officielles. En croire des sources militaires à Rutshuru, cependant, les éléments FARDC qui étaient engagés dans les opérations contre la rébellion à Bunagana auraient reçu l'ordre de se retirer de cette cité frontalière. Et quelques-uns de ces éléments loyalistes ont été aperçus traverser la frontière vers l'Ouganda, alors que les autres sont encore positionnés à Shengerero. Selon nos sources, c'est à quelques kilomètres vers l'ouest de Bunagana.
Il est dit que Bunagana et ses environs se sont complètement vidés de leurs habitants. Où sont parties ces populations et quelles sont les conditions dans lesquelles elles vivent là où elles sont allées se réfugier, Bernardin Nyangi?
Oui, comme je venais déjà de l'évoquer, les populations locales de Bunagana ont fui majoritairement vers l'Ouganda et avec elles, bien sûr, quelques milliers de déplacés de la zone de Runyoni, qui était, comme vous le savez déjà, hébergé dans les écoles à Bunagana. Ce mouvement a aussi affecté les habitants des villages de Tsengerero et Kadindi, entre autres, quelques kilomètres à l'ouest de Bunagana, qui, eux, ont pris le chemin vers Rutshuru centre. Il faut préciser que c'est difficile pour le moment de connaître la situation de ces personnes déplacées, surtout dans leur zone de fuite.
Et comment réagissent les autorités militaires face à cette situation?
Pas de précision pour le moment. Nous attendons encore la communication officielle des autorités provinciales sur la question qui pourrait intervenir peut-être dans la soirée.
Merci beaucoup, Bernardin Nyangi.
Merci à vous, M. Guy Maté.
Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas été entendu tout à l'heure sur nos antennes quand nous avons pris la parole. Est-ce que vous êtes là ce soir avec nous?
Je suis avec là. Salut à tout le monde et à tous les participants à cette échelle de la situation de Bounagana et de l'ensemble de la
Merci Jacques Joly, vous êtes professeur de droit constitutionnel et député de notre pays. En principe, on est heureux, hein. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation de ce soir. On aurait souhaité écouter en première situation les autorités hautement placées du pays pour pouvoir nous apprendre à l'opinion davantage. Elles ne sont pas là à notre invitation, pourtant nous en avons contacté suffisamment. Merci à vous de répondre à cette invitation. Jacques Joly, quelle est votre première réaction devant cette situation? Une partie du pays, la RDC, est ce soir occupée par des forces autres que l'armée du pays. À votre niveau, vous confirmez cela ou pas?
Mais, je ne peux confirmer, au-delà de ce qui est dit par l'intervenant et mon frère qui vient de parler tout à l'heure, et des éléments d'information que nous avons de la presse. Mais il est un fait que parler d'occupation du Bounagana aujourd'hui, c'est nous remettre dans le contexte global de la situation sécuritaire à l'Est, qui est dominée par la présence de groupes armés qui opèrent, n'est-ce pas, du nord de la République jusqu'à pratiquement au sud. Et dans cette partie du Nord Kivu, nous savons que l'M23 qui a été défait en 2013, toujours dans son schéma, et avec l'M23, tous ses alliés ou tous ces cette architecture qui fonctionne autour de M23. L'M23, ben, c'est la continuité de d'anciennes rébellions, RCD, CNDP ou autres qui fonctionnent autour de notre province ou dans notre province du Kivu, avec malheureusement l'appui ou la complicité ou la complaisance des pays voisins qui hébergent ces rebelles et qui, n'est-ce pas, ont difficile à entrer avec nous dans un schéma d'une paix sincère, d'une coopération symétrique entre États et qui préfèrent opérer par des groupes armés en nous faisant une guerre par procuration.
Alors, Jacques Joly, au moment où nous faisons cette émission, différentes informations circulent, hein. Juste quelques minutes avant que je ne vous rejoigne pour cette émission en ce moment, il y a un audio qui circule dans les réseaux sociaux que nous souhaiterons authentifier peut-être de votre côté, indiquant que c'est la position officielle de FRDC, l'armée nationale, qui explique que ce qui est présenté comme l'offensive de M23 est en réalité la présence d'une armée étrangère dans notre pays, alors que jusque-là, on a parlé des M23. Alors, de votre côté, êtes-vous au courant de cet audio? Est-ce que c'est un audio officiel? Est-ce que ce qui est dit dedans est une version crédible? Devons-nous, à l'instant où nous faisons cette émission, considérer que c'est le M23 qui occupe Bounagana ou que c'est une armée étrangère, même pas maquillée, hein, en mouvement, mais qui officiellement occupe cette partie de sa propre initiative?
Des armées étrangères ou un milice servant de outils de pénétration, de déstabilisation, de manipulation de soi-disant compatriotes, mais un national ne peut pas se livrer à des actes de barbarie vis-à-vis de ses frères. Vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui M23, où les uns étaient des gens qui étaient mixés dans l'armée nationale, dans cette volonté, n'est-ce pas, de trouver une solution, et qui volontairement ont quitté l'armée sans justification, avec grade et armes, pour venir nous attaquer. Mais en 2013, ils ont été défaits, Et curieusement, ces rebelles sont allés dans le pays voisin où ils ont été logés dans le camp et autres, poussant la République à vouloir intégrer encore ces 1000 rebelles au sein de notre armée. Donc nous connaissons le modus operandi de ces États voisins depuis l'année 97 avec l'AFDEL. Vous savez qu'à un certain moment, lorsque l'AFDEL nous attaquait, nous disions que c'était le Rwandais, la communauté internationale faisait semblant de ne pas croire jusqu'à ce que où nous avons eu un chef d'état-major général rwandais et plus tard il sera chef d'état-major de l'armée rwandaise. Donc nous connaissons les personnes avec qui nous avons des problèmes. Le RCD n'a jamais été créé au Congo, ça a été créé au Rwanda, tout comme le M23 et le RCMDP. Donc nous savons que ceux qui sont derrière ou ceux qui opèrent sous couverture M23, c'est l'armée rwandaise.
Alors, Jacques Joly, justement,
le président de la République l'a dit, les prix Nobel de la paix l'a dit, et les Congolais qui sont sur la frontière
le disent.
On a arrêté deux Rwandais, des soldats rwandais sur notre territoire. Ils ne sont pas venus faire du tourisme, ils sont venus, n'est-ce pas, perpétrer des actes d'agression et des violations de notre territoire. Donc derrière le M23, c'est une évidence. La MONUSCO, vous êtes de la radio Capi, la MONUSCO, les commandants en chef de la MONUSCO l'a dit, qu'une rébellion n'utilise pas des armes de visée nocturne, elle ne peut pas avoir l'appui-feu et surtout profiter, n'est-ce pas, du terrain, de l'espace. Lorsqu'on attaque à Kibumba et qu'on les repousse, ils rentrent où? C'est dans au Rwanda ou peut-être aussi à l'Ouganda.
Alors, Jacques Joly,
nous sommes à la frontière. Comment ils sont venus? Et tout cela, c'est
connu et répété.
Une duplicité et tout simplement un environnement non propice au développement de la région des Grands Lacs.
Jacques Joly, la RDC a tous les droits aussi de se protéger et de se défendre, mais malgré tout cela, Jacques Joly, comment expliquer la situation d'aujourd'hui, M23, un simple groupe armé ou une armée étrangère bien équipée, comment la RDC a-t-elle pu accepter, permettre, laisser se faire ce qui s'est passé ce matin, une partie de son territoire être occupée?
Nous n'avons pas simplement de problème au niveau de Bunagana, de cette frontière là-bas. Nous avons des problèmes de groupes d'armées étrangers et qui manipulent quelques groupes d'armées nationaux sur notre territoire. Les drames dans cette affaire, c'est que ces groupes d'armées bénéficient du concours ou sont parfois des éléments de l'armée étrangère. Donc, nous avons des problèmes. Les forces armées sont sur plusieurs fronts. Nous sommes dans l'Ituri en train de lutter contre les éléments de la Côte d'Éco. Nous sommes dans le Nord Kivu en train de lutter contre l'ADF. Nous sommes dans le Sud Kivu avec d'autres groupes armés, donc qui occupent des espaces dans le parc ou même certaines localités. Mais ces groupes-là sont essentiellement autour des frontières. Bunagana, c'est une ville frontalière, Runyoni ou autre, c'est long quand on parle de Kibumba ou de Kirumangabu. Nous sommes sur la ligne frontalière entre la République démocratique du Congo. Donc, il est dit en droit international qu'il ne faut pas servir que vos pays servent de base arrière ou de ravitaillement de ces hommes-là.
En fait, Jacques Joly, la question...
Laissez-moi terminer.
La question de l'opinion, c'est que pourquoi l'armée congolaise n'a pas défendu son territoire, n'a pas continué à défendre son territoire, puisque les informations indiquent aussi qu'il n'y a pas eu de combat, donc l'armée n'a pas fait de la bagarre ou des échanges de tirs avec ces personnes qui sont venues entrer. Pourquoi cela, Jacques Joly, selon vous?
L'armée nationale congolaise est engagé depuis pratiquement 20 ans sur ce site. Deuxièmement, cette armée est infiltrée par ces hommes-là qui dirigent les brigades et des régiments. C'est justement la guerre actuelle, c'est le refus du nouveau pouvoir de continuer ces opérations de missage, de brassage qui ont permis l'infiltration et l'infiltration qui a, n'est-ce pas, miné cette armée de l'intérieur. Donc, le travail actuel de l'armée, et c'est que veulent justement bloquer ses voisins, c'est d'empêcher la montée en puissance de l'armée congolaise et de continuer à fragiliser cet espace oriental avec de fausses ou de vraies rébellions pour justement permettre l'exploitation
Des ressources congolaises. Merci Jacques Joly. Nous revenons à vous. Nous vous gardons dans ce débat. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Quelles sont les informations que vous pouvez déjà partager à ce moment de la journée avec nous? Vous avez entendu notre question au professeur Jacques Joly. Il est connu depuis le matin que c'est le M23 qui a occupé le Nord Kivu, cette partie du Nord Kivu, donc de Bunagana. Mais d'autres informations circulent que ce serait carrément une armée étrangère, je ne vais pas citer les noms ici, ça sera révélé le moment à venir ou par vous qui êtes sur le terrain. La vérité c'est quoi, vous qui êtes sur le terrain, qui avez vécu sans doute ce qui s'est passé ce matin, beaucoup plus près que tous les journalistes de manière générale, quelle est l'information que vous pouvez nous donner à ce sujet par rapport à tout ça?
Oui, merci beaucoup Guy Maté. Donc avant de donner l'information que nous avons par rapport à ce qui s'est passé ce matin à Bunagana, je voudrais encore une fois présenter ma compassion auprès de cette population victime d'une barbarie, en tout cas à outrance, une barbarie qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, la population est en train de souffrir sérieusement, alors qu'elle est vraiment innocente dans tout ce qui se passe. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas la première fois. Ça fait maintenant plus de deux décennies que le territoire de Rutshuru connaît des affres qui viennent du même pays avec les mêmes acteurs et les mêmes modes opératoires. Sinon, pour revenir à votre question, par rapport aux informations que nous avons, c'est quoi? C'est que il est vrai que la cité de Bunagana est entre la main.
Surtout par rapport à
M23.
Surtout par rapport à ce que vous voyez vous-même, hein. Pas seulement par rapport aux informations que peut-être on nous donne tous de la même source, mais aussi ce que vous voyez vous-même sur le terrain.
Tout à fait. Donc je suis en train de dire que par rapport à ce qui se voit sur le terrain, c'est que les M23, c'est vrai, ils sont là avec leurs alliés RDF, même si vous ne voulez pas citer les noms, alors que, en tout cas, c'est bien connu, ce sont des RDF, l'armée rwandaise qui est aux côtés des M23. Pourquoi? Parce que non seulement ils sont visibles, mais aussi tout le monde sait que le M23 n'a plus d'éléments pour venir, en tout cas, s'affronter avec les FARDC. La trêve avec eux, c'est des gens qui ont été tapés d'abord depuis le 2013. Et aujourd'hui, l'effectif qu'ils ont, en tout cas, c'était vraiment très minime. Et ce qui a fait qu'ils ont fait beaucoup depuis le mois de novembre l'année passée, ils n'ont pas su avancer. Et ils ne l'ont fait que lorsqu'ils ont reçu cet appui de RDF. Et non seulement on le voit à Bunagana, les gens les ont vus ce matin à Bunagana, mais il y en a d'autres qui ont été, en tout cas, arrêtés, capturés. Ici, sur le sol congolais, c'est à Birouma, dans la localité de Birouma, une localité congolaise. Les RDF ont été attrapés et ils ont confirmé qu'ils sont aux côtés de ces M23.
Alors, Jean-Claude Mbabazé, le contingent des nouveaux occupants de Bunagana en ce moment, déjà confirmez-nous que vraiment Bunagana est occupé, passé totalement sous contrôle de ces nouveaux occupants. Alors ces nouveaux occupants sont au nombre de combien à peu près? Ils sont visibles comment? Organisés comment? Quand on dit que Bunagana est passé sous leur contrôle, c'est de quelle manière? Est-ce que l'administration habituelle est toujours là? Est-ce que c'est eux qui occupent les bureaux officiels en ce moment. Comment se matérialise l'occupation dont on parle?
Donc, il faut dire que donc ils sont entrés à Bounagana vers 9h-10h, après que les FARDC, que nous saluons, je peux vous dire que les FARDC n'ont pas de mérité. Ça, il faut vraiment que les gens le sachent. Les FARDC ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais le problème, c'est qu'on s'est retrouvé face à une armée rwandaise dont on ne se préparait pas pour affronter. Mais également, on ne peut pas aussi ne pas le dire. Ces gens, ils ont aussi reçu, en tout cas, un appui des UPDF du côté des Bigega. Ça, les gens ne veulent pas le dire, mais nous le confirmons.
Vous voulez parler de l'armée ougandaise?
De l'armée ougandaise, en tout cas, a appuyé aussi ces RDF avec M23 pour conquérir la cité de Bounagana. Alors, les FARDC en professionnel n'ont pas voulu qu'il y ait des dégâts collatéraux dans la cité de Bounagana.
Les ont laissé occuper.
Les bombes commençaient déjà à tomber non loin de Bounagana. Alors, les FARDC en professionnel qui ont des soucis de la population n'ont pas voulu s'affronter avec ces rebelles dans la cité de Bounagana. Et ils ont préféré
laisser les terrains libres
sans combattre pour éviter qu'il y ait des dégâts sur la population.
Alors, la question que je vous ai posée, l'autre question que je voulais poser, c'est que comment ces nouveaux occupants s'organisent-ils? Comment ont-ils concrètement occupé Bounagana? Est-ce qu'ils ont pris possession des bureaux, des espaces officiels? Est-ce qu'ils ont chassé ou remplacé ceux qui étaient là? Est-ce qu'ils gèrent les péages, des choses comme ça?
Non, en fait, Guy Maté, il faut dire que maintenant, là, c'est encore tôt pour qu'ils nomment les gens, qu'ils gèrent le péage, mais ce qui est vrai, c'est qu'en arrivant d'abord à Bounagana, tout le monde avait fui. C'était vraiment une cité déserte, parce que la population a fui, il n'y a personne là-bas. Sitôt arrivé, ils doivent d'abord certainement consolider leur position, parce qu'ils savent que les FARDC ne sont pas loin de Bounagana. Je peux confirmer que les FARDC sont dans les villages voisins de Bounagana. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce que ils s'attendent également au fait des FARDC. Mais c'est que nous sommes déjà informés qu'en arrivant, ils ont passé des cadenas de certains bureaux, ils sont entrés dans certains bureaux, mais ils ne se sont pas installés parce que il n'y a pas de civils là-bas. Et ceux qui sont là sont des militaires. Peut-être qu'ils attendent que la branche politique arrive, on ne sait pas encore, mais ce qui est contenu, c'est qu'ils ont cassé des bureaux d'abord au niveau de Bounagana. Mais, chose malheureuse encore une fois, c'est que, dans cette soirée ici, ils se sont livrés aux actes de pillage, des boutiques qui viennent d'être pillées sérieusement, et même dans des résidences, des populations qui ont fui, qui sont réfugiées vers l'Ouganda. Mais là, au moment où nous vous parlons, c'est un pillage systématique, ils sont en train de piller dans toutes les boutiques, dans tous les magasins, et voilà un peu la situation comment elle se présente. Donc, ils sont seuls à Bounagana, sans population, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui cette rébellion. Et c'est comme cela que les gens, en tout cas les populations, ont quitté la cité pour se réfugier parce qu'ils ne veulent pas vraiment entendre de cette rébellion qui, en tout cas, vient encore une fois endeuiller nos populations. Je peux vous dire que, en tout cas, non seulement vous connaissez ce qui s'est passé à Bounagana, pas plus tard qu'hier, ils ont largué une bombe dans la localité de Kinihira, une dame a succombé. Et avant-hier, ils ont largué des bombes au niveau de Kabindi. Un jeune garçon a succombé, l'autre a été blessé. Et le vendredi, ils ont lancé des bombes à Biruma, dans une école même. Deux écoliers sont morts. Donc, comprenez que c'est des gens vraiment...
Qui ne viennent pas avec de bonnes intentions. Merci. Jean-Claude Mbabazé, on vous garde aussi dans la suite de ces débats. Jean-Jacques Wondo, analyste politique, breveté des hautes études de sécurité et de défense. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont celui intitulé Sociologie politique militaire africaine. Comment expliquer ce nouvel épisode d'insécurité en République démocratique du Congo et dans les Kivu, et comment d'entrée de jeu expliquer ce qui s'est passé? Est-ce que l'armée de la RDC a, parce qu'on apprend que c'était sans combat, est-ce que c'est voulu? Si c'est voulu, est-ce que c'est la meilleure tactique? À ce stade, quelle est votre réponse?
Ce qui se passe, je voudrais d'abord rappeler que ce n'est pas la première fois que la cité de Boundiagada puisse soit tombée entre les mains du rebelle du groupe M23. On se rappellera qu'il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, en juillet 2012, cette cité a été prise par les éléments du M23, où le groupe de FRDC qui était commandé par le général Mayala, avec 600 hommes FRDC, se sont retrouvés en Ouganda. Ici, ce qui se passe à Boundiagada montre qu'il y a une certaine coalition qui se mettrait en place pour pouvoir réoccuper l'espace du Kivu, l'espace de Rutshuru. Et l'explication est simple, c'est-à-dire que ce que le M23 n'a pas pu obtenir au niveau des négociations à Nairobi, il essaye d'utiliser la force pour pouvoir mettre les autorités congolaises devant le fait accompli. Et c'est la tactique qu'on appelle « fight and talk ». Ils discutent quand ça les arrange et quand ils estiment que les négociations ne leur permettent pas d'obtenir gain de cause, là, ils utilisent les moyens militaires, notamment avec l'appui des pays frontaliers. Parce qu'une rébellion ne peut pas prospérer sans pouvoir bénéficier des soutiens des États frontaliers.
Mais Jean-Jacques Orundo, selon vos informations, vous connaissez bien les questions de sécurité, selon vos informations à ce stade, c'est le M23, un groupe armé qui revendique quelque chose, ou c'est un pays étranger qui agresse la RDC selon vous? Vous avez entendu vos co-débatteurs se prononcer sur cette question avant vous.
Je pense que le M23 n'est là que comme des acteurs de proxy pour représenter les revendications des pays frontaliers, notamment le Rwanda. Le fait que dans les combats qui sont déroulés les semaines dernières, on a pu capturer deux militaires rwandais, ce sont des indices assez suffisants qui montrent que ce n'est pas le M23 qui se bat, mais c'est plutôt le Rwanda qui utilise ces acteurs transnationaux pour pouvoir venir et occuper l'espace qu'ils ont perdu entre-temps.
Alors, dans ce cas, que cherche réellement le Rwanda? On a à ce sujet entendu plusieurs analyses, plusieurs versions des faits. Il semblerait que le Rwanda veut retrouver son influence sur la République démocratique du Congo et tous les intérêts qui vont avec, que le Rwanda cherche à éviter que l'Ouganda ou d'autres pays influents de la région des Grands Lacs ne puissent avoir l'influence qui lui était, entre guillemets, destinée. Est-ce que ce sont ces raisons ou d'autres raisons plus profondes, plus cachées?
Mais je pense que les raisons sont pratiquement les mêmes que celles qui ont été évoquées par mes prédécesseurs. C'est-à-dire que le Rwanda a toujours voulu avoir une influence sur la politique, sur la sécurité du Congo, de sorte à pouvoir exploiter à moindre coût les richesses du Congo. Et je voudrais surtout rappeler que le M23, lorsqu'il a été vaincu en 2013, on ne comptait pas plus de 300 personnes, dont une partie était partie en Ouganda et l'autre est allée au Rwanda. Et le M23 a repris ses attaques l'année passée. Et là, nous avons pu avoir des informations assez crédibles comme quoi le Rwanda a formé de nouveaux éléments du M23 qu'il a essayé d'envoyer au Congo. Vous vous rappelez qu'on avait d'ailleurs à l'époque arrêté aussi et on a deux militaires rwandais, donc en novembre 2021, et c'était pour tester leur capacité de feu. Et je pense que 6 mois après, ils se rendent compte que ces jeunes sont aguerris, et vu que les négociations au niveau de Nairobi patinent, ils utilisent maintenant les moyens armés pour pouvoir réoccuper l'espace et pour pouvoir continuer à avoir une influence sur le service de sécurité congolaise, sur la politique congolaise. Et je pense que les intentions du Rwanda, les mêmes intentions qui sous-tendent l'invasion du Congo ou du Zaïre depuis 1997, comme l'a dit le professeur Joly, ces intentions restent les mêmes. Donc il n'y a pas de changement dans le paradigme sécuritaire ou stratégique du Rwanda. Le Rwanda utilise des éléments qui sont
soit très belle, ou d'autres qui sont encore infiltrés au sein de l'armée, notamment par les différentes actions de brassage, de mixage ou d'intégration, pour pouvoir avoir une influence, continuer à pouvoir gérer la politique et la sécurité du Congo.
Jean-Jacques Rondo, le Rwanda a donc ses ambitions déjà connues. Le Rwanda est passé par les armes et par le feu pour intimider la RDC et pour en ce moment occuper une partie de son pays. Pourquoi la RDC, qui connaît les motivations du Rwanda, qui a même vu ces derniers jours la puissance militaire du Rwanda se renforcer vers les frontières et même les espaces qui sont aujourd'hui occupés, et pourquoi la RDC ne s'est-elle pas défendue? Pourquoi surtout avoir laissé ses occupants entrer sans combattre?
Ben, on laisse sans combattre, je ne pense pas que ça soit une volonté de pouvoir laisser les occupants combattre, mais je pense que les commandants d'unités qui sont sur le terrain, quand ils estiment que leur puissance de feu ne leur permet pas de pouvoir
contenir définitivement l'adversaire,
ils essayent un peu de faire une retraite, parfois on appelle retraite stratégique, pour pouvoir revenir plus tard. Mais ce qui est incompréhensible aussi, c'est au niveau de la gestion de cette guerre par le gouvernement congolais. Il ne faut pas se cacher la face, parce que nous sommes dans un espace où on a décrété l'état de siège. L'état de siège, c'est un état qui est presque similaire à l'état de guerre, c'est-à-dire que quand on sent qu'une ville peut tomber dans l'imminence. Ça fait plus d'une année que cet état de siège est en cours, et on devrait renforcer les capacités militaires des unités qui se déploient sur le terrain. Or, sur le terrain, nous sommes en contact assez régulièrement avec quelques jeunes officiers qui sont commandants d'unité. Ils ne reçoivent pas suffisamment le renfort ou soit les informations qu'ils ont pour pouvoir mener des opérations sont données à l'ennemi, d'autant plus qu'il y a encore d'autres éléments qui se trouvent dans l'armée et qui font encore loyauté à leurs anciens maîtres.
Merci. Donc, Jacques Wondo. Nous allons à présent donner place aussi aux auditeurs, à la population donc, de pouvoir s'exprimer. Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Pour vous, nous allons commenter cette réflexion de Marie-Paul.
C'est Marie-Paul Awa depuis Kisangani. La résurgence de cette force négative de M23 en République démocratique du Congo ne cesse de devenir un véritable casse-tête pour la sécurité du pays en général et des populations de la partie Est en particulier. Les atrocités et les crimes commis par ces rebelles méritent d'être portés à la CPI par la République démocratique du Congo. Au jour le jour, l'insécurité règne au maître et les forces armées de la République démocratique du Congo jouent à la défensive sans éliminer cette force négative. Il est impératif pour la République démocratique du Congo de trouver les moyens nécessaires par les partenariats stratégiques internationaux afin d'éliminer ces groupes terroristes dans la partie est du pays.
Jacques Joly?
Oui, je crois que notre auditeur, M. Marie-Paul, a raison. Il n'est pas admissible un État, parce que l'État se définit d'abord par le contrôle ou le monopole de la violence physique légitime. On ne peut pas parler d'État si vous n'avez pas la capacité d'assurer la sécurité de votre population, de votre territoire. Mais comme nous le disons, il y a deux décennies que cette armée n'a pas été fragilisée, je dirais même cannibalisée. En termes de moyens humains, il y a des bataillons qui sont des bataillons inorganiques, c'est-à-dire qu'on vous parle d'un bataillon, 700-800 hommes, mais vous ne trouvez pratiquement pas 100 personnes. Il y a des unités qui ne sont plus donc équipées suivant les TO ou les travaux organiques. Et il n'y a pas des unités d'appui organiques, genre force aérienne ou des artilleries complètes. Donc, l'armée congolaise, c'est une armée à réformer pour que nous puissions. Et il faut ici admirer le travail que ces jeunes gens-là font sur le terrain. Ils me disent toujours, nous faisons beaucoup avec eux. Mais lorsqu'on se trouve en face des adversaires, des armées ou des États qui ont structuré leur architecture autour de la force. L'armée rwandaise, les RDF comme on l'appelle, ou le pouvoir rwandais, c'est un pouvoir de type militaire, et il s'est renforcé militairement. Vous trouvez l'armée rwandaise au Mozambique, vous avez l'armée rwandaise en Centrafrique, l'armée rwandaise au Sud-Soudan. Donc cette armée se renforce avec le moyen de la communauté internationale. Vous voyez ? Donc, et nous, nous avons, à cause des visions assez floues de l'ancien pouvoir, rompu des partenariats stratégiques avec la Belgique, pour des raisons obscures, nous avions eu des unités qui ont été formées par les Belges et qui ont pu mettre en déroute l'M23 à Tsanzu. Mais ces unités ont été cannibalisées et on a rompu la coopération avec la Belgique. On peut se demander pourquoi. La France est à peine en train de revenir. Donc, au nom d'une souveraineté obscure, on a rompu le partenariat.
On a donc fragilisé l'armée. Merci Jacques Joly. On sera avec vous dans la dernière partie pour terminer l'émission de ce soir. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Pour vous, ce commentaire de Fabrice.
Maître Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Pour nous, l'M23, ça n'existe plus, il faut le dire. Nous faisons face à une agression, incursion étrangère. Et comme nous, Congolais, nous sommes les peuples les plus pacifiques du monde, et c'est plus que ça, c'est le pays, nous ne faisons qu'attendre l'ennemi occuper illégalement nos territoires. Et la seule réaction, c'est d'attendre la déclaration de l'Union africaine, voire même de la communauté internationale, pour nous faire asseoir et nous faire négocier avec ce pays hypocrite pour une réinsertion dans l'armée suivie des hautes nominations. On ne doit pas se voiler la face. Notre pays est en guerre contre le Rwanda. Dans ce pays, en vrai sens du nom, le président de la République, déjà avec les deux chambres du Parlement réunies à Congrès, et devait se réunir pour prendre les options conséquentes, et notamment à faire appliquer les dispositions des articles 86 et 143 de la Constitution en déclarant la guerre.
Jean-Claude Mbabazé, faut-il en définitive et le plus rapidement possible passer à la puissance de feu, faire la guerre ou pas?
Mais oui, tout à fait. En tout cas, moi je pense qu'à l'allure où nous allons, il faut passer en tout cas à la guerre. Parce que la guerre est déjà là, on ne peut pas l'éviter. La guerre elle nous est imposée par les pays voisins. Et qu'on continue à penser que ces gens-là, ils viennent se balader. Non, ils viennent pas se balader, ils viennent avec des armes, ils sont en train de tirer sur des populations civiles, ils sont en train de larguer des bombes dans des écoles. Et bref, c'est vraiment une guerre qui est déclenchée. Et d'ailleurs, tous les éléments constitutifs, même d'une agression, les éléments constitutifs des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, sont déjà réunis. Là, je parle sous le contrôle du professeur Jacques Ivouli, et que donc, il faut vraiment déclarer une guerre contre ces pays qui viennent nous agresser. Mais également, il faut dire que quand l'OTAN parle de négocier, il a raison. Il faut négocier avec qui? C'est avec le Rwanda, parce que l'M23, en principe, n'existe plus. C'est un arbre qui cache la forêt. C'est les Rwandais qui nous agressent. Et il ne faut pas parler du M23, on doit parler du Rwanda. Et voir les autorités rwandaises en face. Donc, c'est ça aussi les rôles que doit jouer notre diplomatie. Et en tout cas, continuons à penser que le Rwanda, c'est un pays ami. Et même l'Ouganda, continuons à développer, à penser que l'Ouganda, c'est un pays ami. Ça, c'est sérieux, c'est trompé. Et c'est cette erreur-là qui nous plonge dans l'échec qu'on est en train de connaître, parce que ce qu'on a connu au Rwanda, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne l'ont pas vécu, l'échec aussi, même l'Ouganda a contribué dans cet échec-là. Je peux vous dire, même si vous m'avez coupé les fonds vidés, le samedi même, quand les choses chauffaient de l'autre côté, les UPDF, l'armée ouganaise, a dégarni toutes ces positions qui sont au niveau de la frontière pour permettre l'accès facile à Bunagana. C'est pour dire que les relations que le gouvernement nous vante avec l'Ouganda, c'est vraiment...
Ce ne sont pas des relations sincères. Merci, vous l'avez aussi bien détaillé, Jean-Claude Mbabazé. Jean-Jacques Wondo, analyste politique, breveté des hautes études de sécurité et de défense, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont celui intitulé « Sociologie politique militaire africaine », pour vous aussi, cet auditeur de Bukavu.
Je m'appelle Sani Kisulu, je suis dans la ville de Bukavu. La République démocratique du Congo a déjà montré à la face du monde qu'elle veut la paix, rien que la paix, à travers une politique étrangère basée sur le bon voisinage. c'est déjà dépassé. Car l'opinion sait très bien qu'il s'agit de les biens du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Ceci étant, vu que le Rwanda ne veut pas qu'on recouvre la paix à travers des moyens pacifiques, il est inopportun, voire même sans succès, de recourir à d'autres moyens pacifiques que ce soit. De cet effet, nous mettons à témoin la communauté internationale qui, jusqu'à présent, semble ne pas être préoccupée par la situation atroce qui prévaut en République démocratique du Congo. Il est temps que la RDC prenne des sanctions économiques, diplomatiques tellement sévères en vue de ramener les Rwandais à la raison.
Jean-Jacques Wondo.
Ben, c'est juste une réaction que je peux faire. Je pense qu'en relation internationale, il y a deux matrices qui sont importantes, qui sont la diplomatie et l'armée. Et ici, on a vu que le Congo a multiplié des efforts diplomatiques, que ce soit au sommet de l'Union africaine extraordinaire qui s'est tenu en fin mai à la Malabo. Le ministre des Affaires étrangères, M. Lutundu, l'a étalé à New York au Conseil de sécurité pour parler de la situation du Congo. Et plus récemment, le président angolais a été désigné comme médiateur. Mais on dit généralement que là où s'arrête la diplomatie, commence la guerre. Il est temps que le Congo, le gouvernement congolais, puisse mettre les moyens en place pour permettre à l'armée d'organiser une riposte, parce que seule une riposte armée peut faire reculer ces gens-là.
Jean-Jacques Wondo, nous sommes en train malheureusement de terminer l'émission de ce soir, et c'est votre conclusion. La RDC, depuis de nombreuses années, hein, est interpellée pour pouvoir organiser son armée, n'arrive pas à vaincre les groupes armés qui sont plus limités qu'une armée nationale classique. Pensez-vous que si la RDC décide de faire la guerre, elle peut tenir face au Rwanda aujourd'hui, qui va certainement riposter aussi?
Mais moi, je pense que la guerre, c'est une option politique. Il y a des militaires qui sont sur le front, qui veulent faire la guerre, qui sont déterminés. Il y a juste la question des moyens, savoir leur donner des moyens. Et nous avons des capacités militaires qui peuvent facilement défier le Rwanda. Mais c'est question aussi des réorganisations rapidement des troupes et surtout des commandants et certaines unités, surtout au niveau des renseignements. On sait que des nominations qui ont été faites récemment, la plupart des personnes qui occupent les postes de commandement au niveau des renseignements militaires sont des personnes qui sont issues des rébellions RCD, CNDP, qui sont souvent de connivence avec le M23.
Merci Jean-Jacques Wondo. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu, vous avez vu que l'arrivée seule des nouveaux occupants avec violence ont fait fuir les populations sur place. Vous pensez qu'une guerre ouverte sera la bienvenue, une bonne chose pour les populations?
Il faut dire maintenant que, est-ce que la guerre est fermée, M. Dimaté? Donc la guerre est ouverte, les gens sont venus en train de larguer des bombes sur la population. Je ne sais pas ce que les gens veulent. Donc la guerre, en tout cas, elle est déjà ouverte. Et comme venait de le dire le co-débatteur, il faut plutôt donner des moyens, parce que je vous dis que nous avons une armée très aguerrie. Nous l'avons vu sur le terrain depuis le mois de novembre jusqu'à présent. Si en tout cas la M23 avec ses alliés n'ont pas réussi, c'est parce qu'il y a une armée qui est aguerrie, qui est prête à combattre, et que donc il faut vraiment la renforcer, la donner des moyens et avoir même toutes les capacités pour faire face à cette agression, parce qu'il faut vraiment le dire ainsi, c'est une agression qui vient des pays étrangers, et nous avons une armée qui est capable. Bien sûr, il faut aussi renforcer la diplomatie et aussi, en tout cas, essayer de parler avec
le Rwanda directement. Merci Jean-Claude Mbabazé. Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes donc un officiel, même si vous n'êtes pas du gouvernement. Que pensez-vous que la RDC va vraiment donner comme réponse cette fois-ci? C'est la guerre ou les négociations vont continuer? Et cette fois-ci, peut-être le gouvernement avec le Rwanda.
La guerre définie comme constitutionnellement, il faut la déclarer, mais il y a aussi la guerre qu'on vit au jour le jour en termes de dégâts. Lorsqu'on voit la souffrance de notre population, de ses enfants qui perdent, de ses femmes avec des matelas, mais ce sont des scènes qu'on ne peut pas accepter. Il y a aujourd'hui plus de 500 000 personnes qui sont en train d'errer. Et je crois que ça, nous devons nous doter, nous, de l'esprit de défense, pour que nous puissions comprendre que notre armée était cannibalisée et nous devons remonter en puissance. 3,9% des ressources, c'est insuffisant. Ça fait moins de 600 millions de dollars pour, n'est-ce pas, remonter l'armée qui a été pendant 18 ans totalement cannibalisée. Pour nous, nous devons faire la guerre ou pas faire la guerre, mais nous devons protéger nos frontières, nous devons protéger notre population, nous devons lui donner la paix. Et pour cela, il faut une armée capable de s'assumer. Et pour cela, il faut des moyens. Aujourd'hui, ben, nous félicitons le gouvernement d'aller dans la gratuité, mais les enfants ne peuvent pas passer l'examen d'État parce que
il y a l'insécurité. Merci Jacques Joly d'avoir participé à cette émission, mais aussi vos deux co-débatteurs de ce soir, Jean-Claude Mbabazé et Jean-Jacques Wondo, pour votre participation. Willem Lungamba Guimaté m'ont aidé à préparer cette émission. Donald Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.